Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama sur la croisette ou pas loin, en tout cas au Festival de Cannes, la 71e édition. Eva Husson, Yazankier, Spike Lee, Jafar Panahi, David Robert Mitchell, Kirill Serebrennikov ou encore Jean-Luc Godard, nous avons vu leurs films, mais on n'en parlera pas. En tout cas, on va parler de au moins deux films, Marine.
Oui, moi je vais vous parler du nouveau film de Stéphane Brisé, En guerre, qui est en compétition et avec Vincent Lindon.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai du film de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite, qui a été projeté lors de la première semaine de ce festival et qui est ensuite parti dans les salles françaises. Et puis, eh bien, on parlera évidemment de cette 71e édition. Manu nous parlera de la question du corps, surtout dans la sélection Un certain regard, qu'il a suivi plus particulièrement. Et puis on va commencer cette émission avec toi, Marine, où tu vas nous donner un peu ton ressenti de ce festival de Cannes de cette première semaine.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique !
Alors, cela fait déjà une semaine que je squatte la sélection Un certain regard, et pour cause, mon badge n'étant pas prioritaire, j'ai relativement peu de chances de pouvoir assister au film de la compétition. Par exemple, Daniel Spike Lee m'est passé sous le nez malgré une heure et demie d'attente. Alors, les mauvaises langues diront que la sélection Un certain regard regroupe grosso modo les films qui auraient pu être en compétition, mais dont le casting n'était pas assez prestigieux pour prétendre fouler le tapis rouge. Alors, en tout cas, j'ai pour le moment assisté à un sans faute au niveau de la sélection, que ce soit le film sud-africain Die Troopers, le très étrange film suédois Grants ou le nouveau film de Valeria Golino Euphoria. Pluralité des thématiques, large panel des pays représentés, chaque film a apporté sa part d'originalité et d'intensité, et même la cérémonie d'ouverture d'Un certain regard a été, on va dire, relativement mouvementée par rapport à l'année dernière. Alors Thierry Frémaux s'est réjoui que le cinéma ait repris ses droits et que, je cite, « pendant 10 jours, on parle moins de selfies ». Oui, car cette année encore, il poursuit la guerre qu'il avait entamée l'année dernière contre les selfies. Et pour poursuivre cette flamboyante introduction, nous avons appris en direct sur la scène de la salle Debussy que le Festival de Cannes avait gagné son procès contre le producteur de L'homme qui tua Don Quichotte, le nouveau film de Terry Gilliam, ce qui signifiait officiellement que le fameux film maudit allait pouvoir clôturer le 71e festival comme prévu. Cette annonce provoque les applaudissements d'une foule cannoise habituellement très calme, qui était ce jour-là apparemment d'humeur à rire. Autre information capitale de l'ouverture, Thierry Frémaux, d'humeur taquine également, nous explique, je rappelle qu'il s'agissait du premier jour du Festival de Cannes, donc beaucoup de rumeurs et d'incertitudes circulaient. Il nous explique donc que malgré tous les efforts diplomatiques déployés, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov resterait assigné à résidence en Russie, alors que son film Leto fait partie des films en compétition. Le Festival de Cannes aurait même directement contacté Vladimir Poutine pour arranger les choses, et Poutine aurait dit, alors je vous le fais sans l'accent russe, je suis désolé, j'aurais adoré qu'il puisse venir au Festival de Cannes représenter la Russie. Malheureusement, Kirill a des problèmes avec le fisc, et comme vous le savez, notre justice est indépendante. Cette bonne blague a déclenché l'hilarité de toute la salle de Bussy, qui a pu rigoler un bon coup avant d'enchaîner sur un film ukrainien sur la guerre du Donbass. Là, je peux vous dire qu'on a beaucoup moins rigolé. Mais globalement, cette année, le public est quand même beaucoup plus réceptif aux films, plus d'applaudissements, plus d'émotions que l'année dernière, et alors toujours autant de petites phrases cultes que l'on surprend comme ça, entre deux journalistes, lorsque l'on fait la queue pour aller voir un film. Dernière perle en date, hier, j'entends deux hommes discuter du film Capharnaüm, réalisé par Nadine Labaki en compétition, et l'un dit à l'autre, écoute, c'est une femme, et comme cette année à Cannes, il faut donner la palme à une femme, elle a toutes ses chances. En voilà visiblement deux qui n'ont pas dû être émus lorsque Cate Blanchett, samedi dernier, a fait monter 82 femmes sur les marches du palais, représentant les 82 réalisatrices, ou plutôt devrais-je dire réalisatrices, les 82 seulement qui ont été sélectionnées en compétition depuis la création du Festival de Cannes. Un moment fort, émouvant et important qui revendiquait plus de parité, notamment dans les comités de sélection.
Eh bien, merci Marine pour ce premier compte-rendu de la 71e édition du Festival de Cannes où Cinérama est présent. On n'est donc pas très loin de la croisette. Et on va prolonger cette émission avec la question du corps et de sa représentation dans les films. Alors, non pas forcément en compétition, parce que Manu ne les a pas forcément vus, ces films en compétition. C'est plutôt moi qui me suis collé à ça. Mais il a vu la sélection Un certain regard. Eh bien, on écoute ce qu'il y a vu.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, difficile d'établir une radiographie des tendances à Cannes sur 3 jours de présence et seulement 8 films visionnés. Alors, à travers les 5 films vus dans le cadre d'un certain regard, on pourrait néanmoins dégager certains thèmes abordés, ou plutôt certaines récurrences, traitées évidemment selon des modes parfois opposés. Mais époque oblige, préoccupation majeure du XXIe siècle, si on se focalise notamment sur les évolutions sociétales, la question du corps et de sa représentation semble plus que jamais attirer les artistes. Alors chacun des films s'est emparé du sujet pour donner libre cours à des interprétations, réflexions, analyses toutes personnelles, avec une prédilection toutefois pour l'étrangeté du corps mutant, nous ramenant parfois au sein d'un cinéma transgenre ou de la monstruosité renvoyant directement ou non à l'univers d'un David Cronenberg. Alors passons assez furtivement sur les 2 films les moins intéressants, À genoux les garçons et Mon tissu préféré, 2 portraits très différents de l'adolescence vus d'un point de vue féminin. Alors dans les 2 films, les 2 héroïnes ne sont pas encore des femmes, encore prisonnières d'un corps potelé, voire ingrat en devenir. À genoux les garçons d'Antoine Desrosières est un film curieux, maladroit à force de mixer les styles entre chronique sociale, comédie débridée et faits divers sordides. Le point de vue dédramatisant une situation scabreuse de viol dérange, mais pas forcément dans le bon sens. La pirouette finale remet les choses à leur place, mais au terme d'un film scandé par des dialogues omniprésents, donnant un rythme musical parfois étonnant. Hélas, le grand absent du film demeure quand même le désir. Antoine Desrosières ne s'intéresse pas vraiment au corps de ses actrices, alors que finalement l'enjeu semblait être de ce côté au vu du premier quart d'heure. Alors très différent, Mon tissu préféré de Gaia Gigi, coproduction franco-turco-allemand, tente d'importer le cinéma de Buñuel, et notamment son classique Belle de jour, à l'intérieur d'un dispositif codifié, celui de l'étude de mœurs d'une famille syrienne marquée par l'absence du père, certainement sur le front. Le regard de la réalisatrice sur l'actrice principale est néanmoins intéressant, n'hésitant pas à afficher ses rondeurs temporaires, ce moment charnière où l'on rêve de séduire un amant hypothétique qui apparaît lors de scènes de rêve onirique. Mais l'ensemble demeure trop sage, confiné dans son statut de premier film lisse pour les festivals, voulant mêler la grande histoire, alors Damas en 2011 en plein conflit, et la petite histoire, le désir d'une jeune femme enterrée par l'irruption de la guerre. Alors heureusement, des cinéastes plus courageux osent envoyer davantage de bois, à l'image de l'étonnant El Angel, coproduit par Pedro Almodovar. Ce film argentin de Luis Ortega, qui a déjà 6 longs métrages derrière lui, à peine 38 ans, dresse le portrait tonique et ludique d'une sorte de Dorian Gray des temps modernes, véritable génie dans l'art du vol. Mais ce diable au visage d'ange est avant tout un serial killer insensible, capable des pires exactions sans jamais ressentir la moindre émotion. Cette dichotomie entre ce blondinet au regard candide et les actes ignobles provoque un malaise de plus en plus croissant. Alors ce fils à maman, au trait juvénile et au corps gracieux, ne provoque jamais d'empathie, mais interroge un spectateur pris dans un spectacle fun et virtuose, superbement interprété par l'ébouriffant Lorenzo Ferro. La mise en scène, efficace, n'est jamais complaisante dans sa manière de figurer une violence aussi fulgurante que fugace, un peu à la manière d'un Scorsese. Le trouble s'accentue quand on apprend in fine qu'il s'agit bien d'un biopic, une histoire réelle, terrifiante et séduisante. Alors comment peut-on habiter un corps aussi attirant et demeurer un être aussi répulsif, dénué du moindre sens moral? Alors le film se garde bien de donner une réponse. N'empêche, voilà un thriller vaguement social, plein de bruit et de fureur, porté par une bande-son addictive. On regrettera juste une approche parfois superficielle de sa thématique, et notamment en ce qui concerne l'homosexualité refoulée de cet anti-héros atypique. Alors ce qui n'est pas le cas de Girl, un beau film d'un jeune homme de 26 ans, Lucas Dont, un flamand. Alors pendant que 82 femmes ont monté les marches de Cannes réclamant l'égalité des sexes, un personnage, Lara, décide de franchir le cap, devenir une fille au prix des pires sacrifices. Alors première surprise, Lara n'est pas en conflit par son entourage, au contraire, elle est soutenue par un père qui a néanmoins des inquiétudes légitimes. La force de ce premier long métrage délicat et souvent bouleversant est de rester collé au basque de son personnage transgenre, de le filmer au plus près sans jamais digresser vers d'autres points de vue. Alors il s'agit clairement d'un parcours de croix, d'une affirmation d'un devenir, symbolisé par les séquences de danse classique éprouvantes où l'on souffre avec Lara, qui ne veut pas se surpasser mais simplement réussir sa transformation. Alors quitte à brûler des étapes, adolescence oblige. Le corps de Lara est régulièrement exposé au spectateur avec une frontalité qui force le respect, quitte à le déranger, voire à le choquer à l'image d'un épilogue particulièrement éprouvant, mais finalement logique, si l'on tient compte de l'évolution mentale d'un ou une adolescente, un ou adolescent de 16 ans qui souhaite devenir une fille comme les autres avec des seins et un vagin. La composition de Victor Polster est terrassante, faisant souvent oublier les maladresses d'un scénario parfois mécanique et lourdement métaphorique. Cette réussite n'est rien comparée au morceau de choix que je me devais de garder évidemment pour la fin, le complètement fou barré Border, Gantz en suédois, réalisé par l'Iranien Ali Abbasi. Alors fini les corps d'ados ou de jeunes adultes dans toute leur diversité, bienvenue au corps d'une forme de monstruosité évacuant tout voyeurisme. Tina a un physique disgracieux pour être poli, elle a aussi le flair d'un animal. En toute logique, elle exerce le métier de douanière, ce qui lui permet de détecter des fraudeurs escrocs criminels rien qu'à l'intuition. Elle renifle comme une bête et sent que quelque chose cloche. Alors ça pourrait faire sourire, mais d'emblée, on est happé par cette histoire singulière qui nous vient du grand froid. Elle vit avec un abruti qui la trompe sans vergogne, mais elle s'en tape, vivant en harmonie avec la nature, comme si elle faisait corps avec. Son existence va basculer le jour où elle va rencontrer un homme qui lui ressemble étrangement, au physique aussi dérangeant. Dès lors, sans dévoiler les nombreuses surprises, le film bascule dans un fantastique absurde entre récit policier sur fond de pédophilie, fable humaniste sur la différence et pur trip horrifique. Sans oublier un grotesque assumé arrachant des sourires, nous mettant à chaque fois dans une position inconfortable. Alors Border ose montrer une scène de sexe triviale à la fois belle et ridicule entre deux êtres singuliers qui n'appartiennent pas vraiment à notre monde. Mais je ne peux en dire plus. Il s'agit néanmoins de la deuxième adaptation d'un roman de John Ashvid après Morse, remarquable mise en scène par Thomas Alfredson en 2009. J'en reparlerai plus longuement à sa sortie dans les salles françaises. Alors, en s'éloignant partiellement des questions sociales et politiques, la sélection d'un certain regard a introduit de l'intime à travers des œuvres transgressives et uniques, démontrant que le cinéma n'est jamais aussi bon que lorsqu'il ose affronter ce qui nous construit, le corps qui définit notre mode de pensée et notre rapport au monde.
On reste avec Cannes, mais cette fois-ci on entre dans la compétition avec le film de Christophe Honoré, Plaire, Aimer et Courir Vite, qui eh bien, est sorti dans les salles françaises.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. What else? Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Quelle surprise d'être à Cannes un an après eh bien, l'étonnant 120 battements par minute et de voir un film parlant du sida et se déroulant dans les années 90. Avec Plaire, Aimer et Courir Vite, Christophe Honoré prenait assurément un risque. Mais difficile de comparer le film de Robin Campillo, qui a remporté le Grand Prix à Cannes en 2017 et qui s'est assuré une bonne partie des Césars et le dernier film de Christophe Honoré. Si l'un était ouvertement politique et social et ouvrait eh bien, des failles sur l'intime, Plaire, Aimer et Courir Vite se limite à l'intime et épouse une forme romanesque. Mais attendre de plus de la part du réalisateur des Bien-aimés ou de la Belle Personne, le clin d'œil de Christophe Honoré, eh bien, est plutôt du côté de François Truffaut. Alors dans ce film, on y suit Arthur, un étudiant rennais, de quoi on ne sait pas, qui rencontre un écrivain de passage dans la ville bretonne. Cette rencontre est loin d'être anodine puisqu'elle va faire basculer la vie d'Arthur et d'une certaine manière eh bien, celle de Jean, l'écrivain, touché par la maladie du sida. Alors si le plus jeune s'interroge encore sur sa sexualité, ses prenants d'hommes et de femmes, et en même temps il souhaiterait bien aller de l'avant, eh bien l'autre, compte tenu de sa maladie, se refuse à l'amour, bien qu'il aimerait encore eh bien, se jeter dans les bras des hommes. Séduction, belle déclaration, questionnement, Christophe Honoré tisse un film sensible, éclairé où le verbe circule, les personnages secondaires ne sont pas oubliés, comme le gay vieillissant Denis Podalydès en guise de voisin, l'amante du jeune Breton et quelques autres personnages, alors soit amants de passage ou de vieilles histoires. Même si Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp, hein, les deux protagonistes de Plaire, Aimer et Courir Vite, étaient présents à la conférence de presse du festival, eh bien, c'est leur réalisateur Christophe Honoré, que nous écoutons maintenant dans Cinérama.
Bon, j'ai rencontré un Parisien. Bon, je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais faire changer d'avis.
Non, mais t'es complètement conne ou quoi?
Je suis pas sa femme, je suis juste une amie. Lolo est son fils, je suis la maman de son fils. Jacques est très fort pour compartimenter sa vie.
Je voulais pas que l'histoire, en fait... même si elle prend son temps pour être racontée, j'avais l'impression que notamment le personnage en fait de Vincent Lacoste, le personnage d'Arthur, il fallait en fait au fur et à mesure que le film avance, qu'il ait l'impression comme ça que sa vie s'accélère. Et il y avait vraiment cette idée de travailler sur deux vitesses différentes, avec un personnage qui fait ses débuts dans la vie et qui accélère sa vie, et puis qui croise le personnage de Jacques Tondelli, qui est joué par Pierre Deladonchamp, qui lui, au contraire, en fait, est dans un moment de ralentissement de sa vie et de renoncement. Et ces deux vitesses contradictoires, en tout cas, pour moi, étaient assez essentielles à la dramaturgie du scénario. Donc ce vide était important dans le titre.
Et moi ? Ah, pardon.
Je suis Mathieu, un ami de Jack.
Alors, tu l'as trouvé comment ?
Je l'imaginais plus mignon.
Allez, viens. Je vais à Rennes voir mon breton bizarre.
Just one moment.
Ce que j'espère dans le film, en fait, c'est qu'il provoque des mémoires accidentelles. À la fois des mémoires accidentelles pour les personnages, et puis aussi pour une partie du public. Alors, d'une manière un peu évidente, ça peut fonctionner, cet effet de Madeleine, on va dire un petit peu, avec les musiques, mais je crois que ça fonctionne aussi dans le film avec des œuvres qui infusent, qui diffusent pas mal, en fait, dans le film. Et c'est un film qui est finalement très peuplé d'autres œuvres, d'autres artistes. J'essaye, moi, de les organiser, mais je suis très heureux aussi de les faire exister pleinement et sans forcément y apporter mon filtre. Il y a des phrases qui viennent du journal de la Garce, des phrases qui viennent de chez Guibert, il y a des gestes qui viennent d'un chorégraphe anglais de D.V. Yates, par exemple. Il y a comme ça une espèce de circulation de mémoire, oui, et qui fait que le terme d'évocation, évidemment, c'est je trouve que le cinéma permet ça aussi. Le cinéma peut permettre de rêver, le cinéma peut permettre de plein de choses, mais il peut avoir par moments cette force de provoquer un souvenir, même un souvenir imaginaire, en fait, un souvenir fantôme. Et je crois que cette idée du souvenir fantôme était importante pour moi.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
Le 35 mm, évidemment, il y a tout un truc autour de la texture, de l'image, etc. Mais surtout, ça donne une autre ambiance sur un plateau. C'est-à-dire que les actions sont des vraies actions, les coupés sont des vrais coupés. Il n'y a pas cette espèce de truc qui existe en numérique où maintenant vous lancez les comédiens, vous dites non, mais reprends cette phrase, refais-la, etc. Et puis ça tourne, et on a l'impression que le plan ne démarre jamais, ne termine jamais. Et puis je trouve que ça donne une pression aux comédiens. En plus, moi, je ne fais pas beaucoup de prises. Et du coup, le côté précieux de la pellicule, tout simplement, je trouve, est très important sur le tournage. Je le vois, moi, dans les films, quand les films sont joués en numérique. C'est-à-dire, c'est même pas tourné en numérique, je vois les jeux d'acteurs numériques. Je vois bien qu'ils jouent pas pareil que dans les jeux argentiques. Il y a une espèce comme ça s'étale.
J'aime les gens.
J'ai pas encore le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va falloir vous hospitaliser rapidement.
Est-ce qu'il a déjà lu un de tes romans ?
Non, je lis pas tellement les vivants, c'est pour ça.
Ah. Bah, vous n'aurez pu attendre très longtemps, je pense.
T'es déjà venu chez nous ?
Chez ton père, oui.
Si j'avais voulu pousser l'honnêteté jusqu'au bout, j'aurais appelé le personnage d'Arthur Christophe, mais j'aurais appelé le personnage de Jacques Christophe aussi. Et là, ça commençait vraiment à devenir embarrassant. Parce que j'aurais pu appeler le personnage de Denis Christophe aussi, et le personnage de Loulou Christophe.
Appeler le film Christophe.
J'aurais dû faire cette réponse, en fait. Comment m'en sortir Non, parce que malgré tout, le romanesque advient toujours quand vous vous mettez à faire un film. C'est les émotions qu'il faut... En fait, c'est ce qui est toujours compliqué, en fait, dès que vous faites de la mise en scène, c'est que, surtout au bout d'un certain nombre de films, vous voyez bien que vous fabriquez des trucs. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il y a des moments où vous fabriquez. Et donc, vous n'êtes pas tellement content de ça, parce que vous avez l'impression qu'un autre réalisateur fabriquerait pareil. Et donc là, dans ce film, la discipline, c'était d'essayer toujours d'être fidèle à des émotions très personnelles. Et donc qu'aucun plan ne soit fabriqué. Voilà, c'était l'enjeu.
Je tombe mal, je peux pas me permettre une dernière romance.
Je pars vivre à Paris.
Vous allez me manquer.
Tu sais qu'on pourrait se faire une belle vie tous les deux.
On écoutait donc Christophe Honoré, le réalisateur qui est en compétition pour ce 71e Festival de Cannes avec Plaire, Aimer et Courir Vite dans les salles actuellement. Maintenant, on passe à un autre film qui est aussi sorti dans les salles, c'est En guerre.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Monsieur Bandori, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous ?
Oui, le groupe, il a tenu ses promesses.
On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole.
Où ? vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock.
Voilà. Écoutez,
non, mais c'est sans appel.
Vincent Lindon et le syndicaliste Laurent Amedeo dans le nouveau film de Stéphane Brisé, avec qui il avait déjà remporté le prix d'interprétation pour la loi du marché il y a 3 ans. Dans ce nouveau film très vindicatif et à nouveau en compétition à Cannes, il interprète un syndicaliste qui lutte pour sauver les 1100 salariés de l'usine Perrin Industrie, menacés de licenciement par une direction qui n'a pas tenu ses promesses. Les salariés sont prêts à tout pour défendre leurs droits et leur emploi, mais les dirigeants ne veulent reculer devant rien pour satisfaire les actionnaires et générer davantage de profit. En guerre explique parfaitement tous les rouages absurdes de cette économie capitaliste et démontre comment avec de telles situations on en arrive à la division, voire à l'affrontement.
On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors! C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères! Elle est où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois! C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble!
On n'a plus rien à perdre.
Je vous demande de partir.
C'est illégal.
Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas.
Le film est nerveux, ou plutôt à bout de nerfs. Aux scènes de réunions stériles succèdent les moments d'effervescence en groupe, ceux où l'on bloque, on fait la grève, on manifeste, comme pour souligner l'immobilisme de la situation, pour mettre en exergue la force du groupe et ses limites également. Avec un côté volontairement documentaire, des scènes qu'on laisse durer, des dialogues qui se répètent, un montage minimum. En guerre n'est pas un film facile, mais pas mal de gens sont d'ailleurs sortis de la salle de projection, pensant sûrement qu'après quelques scènes d'engueulade entre syndicalistes, ils auraient vu l'essentiel du film. Et c'est dommage, il faut vraiment voir le film jusqu'au bout, jusqu'à son final très percutant qui en change radicalement la portée. Moi, ça m'a énormément ému, ça m'a énormément touché, mais c'est vrai que ce n'est pas un film facile.
En guerre de Stéphane Brisé, donc, bien peut-être rééditera ce qu'il a fait en 2015, hein, quand il était en compétition déjà à Cannes. En tout cas, eh bien, ce film est dans les salles depuis le 16 mai.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Ainsi s'achève l'émission Cinérama. Nous étions à Cannes pour la 71e édition. Nous comptions sur la conférence de presse de Stéphane Brisé. Nous n'avons pas eu, donc l'émission était très courte. On est désolé. La semaine prochaine, on revient avec un format habituel, Marine.
Oui, moi je vous parlerai de la fin du Festival de Cannes, puisque je vais rester ici, donc jusqu'à la clôture. Et je vous parlerai également d'un film qui s'intitule Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Solo, le film bien de Star Wars.